Bonjour Philippe.
Bonjour François, ça va bien?
Ça va très bien toi-même?
Ben merci, oui, ça va bien.
Alors là, moi, les sujets aujourd'hui, là, c'est de la science-fiction.
D'accord.
Presque, presque. Enfin, on va y revenir un par un.
Bien sûr.
Le premier, on a identifié un gène qui était en fait qui embêtait ou qui nuisait à la régénérescence du cœur.
Effectivement. Pour commencer tout ça, on le sait bien, là, quand on se blesse, par exemple une blessure à la peau va se réparer.
Oui.
Et souvent même sans laisser de traces, hein, on ne s'en rendra plus compte après un certain temps. On ne peut pas en dire autant du cœur, par contre.
Ah,
parce que
okay.
Lorsque le cœur subit des lésions, comme dans le cas d'un infarctus, ben le tissu qui va être généré pour réparer, ben c'est un tissu qui va être plutôt rigide.
Okay.
Ça va avoir pour conséquence de faire perdre un peu de mobilité au cœur, finalement.
Et donc, ça va être le tissu cicatriciel et n'a pas la même souplesse. Donc, le cœur réparé ne fonctionne, à la longue, ne fonctionne pas aussi bien.
Voilà, exactement. Et ce qu'on peut pointer du doigt comme élément qui entraîne un peu ce constat-là, ben, c'est entre autres le métabolisme du cœur, c'est-à-dire la façon dont le cœur s'approvisionne en énergie. Avant la naissance, le cœur va consommer du sucre par ce qu'on appelle la glycolyse. Là, c'est la façon de dégrader les molécules de sucre pour lui donner de l'énergie. Et puis, une fois que après la naissance, ben, le cœur, il change de goût.
OK.
Il va plutôt préférer s'approvisionner de graisse. Donc, il va utiliser un autre processus qu'on appelle l'oxydation des acides gras.
Ça, c'est
donc,
plus
c'est
long
façon...
d'habitude. Ça permet
oui.
pour le muscle de s'approvisionner en énergie, mais c'est un processus de transformation qui est plus long
Absolument.
Que le boost
Tout à fait.
Immédiat, si je peux dire, d'un sucre.
Exactement. Les muscles vont avoir recours, par exemple, à ça aussi éventuellement. Mais revenons au cœur. Donc, le cœur, lui, c'est comme ça qu'il va s'alimenter préférentiellement. Puis, ben ça a des impacts sur l'activité de certains gènes, évidemment. Puis, c'est ça qui, ultimement, fait en sorte que le cœur, ben il peut pas se régénérer en produisant de nouvelles cellules cardiaques. Là. C'est un peu la suite d'événements qui conduit
D'accord.
à ce constat-là de la cicatrice qui n'est pas du tissu cardiaque là, fonctionnel, autrement dit. C'est autre chose. Et donc, oui, vas-y.
Ben, ce que je veux dire, c'est qu'on peut imaginer que quelqu'un qui a de multiples ennuis cardiaques, son cœur devient de plus en plus fibreux, rigide
oui, c'est
et
ça.
Moins, de moins en moins efficace.
Voilà. Et on en arrive donc à une découverte intéressante qui est faite par des chercheurs allemands de l'Institut Max Planck. Et puis, ces personnes-là, ils sont un gros groupe, là, une vingtaine de personnes facilement, ils ont mis en évidence le fait que si on bloque l'expression d'un gène, en particulier, bien entendu, donc on parle, ici, c'est le gène CPT1B.
Bon, ah oui,
ça,
ça, faut, à ne pas confondre avec le CPT1A.
Oui, c'est ça. Essentiellement, ce qu'on va retenir, c'est que quand on bloque ce gène-là, ben on empêche le mécanisme d'oxydation des acides gras. C'est comme si on vient jouer un peu sur la manière dont le cœur va aller chercher son énergie. Ce blocage-là du gène, il y a une cascade d'événements qui s'ensuit, mais ce que je veux vous faire comprendre ultimement, c'est que le cœur, à ce moment-là, les cellules du cœur vont se retrouver dans un état qui ressemble un peu à l'état avant la naissance.
Ah, au moment où le cœur se nourrissait de sucre.
Ben c'est ça. En fait, on dit que les cellules vont être dans un état un peu plus immature, mais ça, ce que ça a comme avantage ici, c'est que ça leur donne une capacité qu'ils n'ont pas normalement, c'est-à-dire une capacité de se régénérer en cellules cardiaques. Donc, le cœur peut refabriquer des cellules cardiaques qui sont fonctionnelles. Donc ça, c'est un peu le mécanisme en jeu, mais ce qu'ils ont pu montrer chez des souris, c'est que lorsqu'on prend des souris qui ont ce gène-là qui a été bloqué, puis que, par exemple, les souris ont subi un arrêt cardiaque, une crise cardiaque, pardon, ben après quelques temps, on observe que les lésions qu'on observerait normalement chez des souris qui n'ont pas le gène altéré. Donc, les souris qui ont ce gène-là, qu'on a supprimé, ben la lésion n'est pratiquement plus apparente.
Il n'y a plus de cicatrices.
Exactement. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que ce sont des cellules cardiaques qui se sont développées, qui se sont divisées et qui ont finalement pris la place de l'espace où il y avait la lésion. Donc, on en convient ici que, autrement dit, les cellules étant dans un état plus immature, ben, elles ont été en mesure de produire de nouvelles cellules cardiaques. Et puis, ben, c'est là-dessus
tout
que
joué.
Cette découverte-là est majeure, finalement.
Ben oui, tout à fait. Mais je trouve ça curieux que, d'un point de vue de l'évolution, on se soit retrouvé avec un gène qui, en cas de blessure cardiaque, n'a pas des résultats optimaux.
Oui, c'est ça. Ben, c'est ça la vie. Hein.
Oui.
En fait, il faut quand même comprendre que c'est un gène qui est normalement très utile, mais là, ici, on joue dans les mécaniques de la génétique pour essayer de trouver un avantage différent. Donc, tout ça, ça a été fait chez les souris. Ben, il faut évidemment se dire qu'il faudra le vérifier chez les humains. Est-ce que c'est tout à fait possible de le faire? Mais ça donne de l'espoir pour une nouvelle approche thérapeutique là, qui pourrait permettre de mieux guérir des lésions qu'on aura normalement avec un infarctus.
Oui, mais ça va aider peut-être les répétitions d'infarctus qui peuvent arriver parfois à les gens qui font une crise cardiaque, puis deux, puis trois.
Et voilà.
Puis
et voilà.
Qui se font dire par leur cardiologue qu'ils avaient eu probablement toutes sortes d'épisodes de micro-crise cardiaque.
Oui, tout à fait.
Éventuellement, ça déboule.
Oui.
Là, il y a un étudiant de cégep. Hein? faut pas aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années.
Oui, c'est ça. Je vous présente souvent, évidemment, des sujets, des recherches établies qui ont été validées par des pairs, publiées dans des grandes revues prestigieuses. Mais là, ici, moi, j'ai envie de vous parler d'une recrue scientifique. On va appeler ça comme ça. Donc, c'est un jeune homme qui, présentement, est étudiant au cégep. Il se nomme Ludovic Avenant. Ce jeune homme-là a mis au point une chaise roulante qui a peut-être des avantages que les chaises traditionnelles n'ont pas. Donc, il faut comprendre au départ que c'est quand même pas mal de monde qui utilise des chaises roulantes. Là, ils sont plus de 130 millions dans le monde là, à se déplacer avec une chaise roulante. Donc, c'est pas peu dire. Ludovic, ce qu'il a développé, lui, c'est une chaise roulante qui non seulement se déplace d'avant et en arrière et qui peut tourner comme les chaises conventionnelles. Cette chaise-là peut se déplacer dans tous les sens. Puis ça, ce que je veux dire ici, c'est que la personne peut rester dans la même orientation et se déplacer un peu comme en glissant sur le côté.
En diagonale?
En diagonale, par exemple.
Mais sans que la face, le devant de la chaise lui-même ne tourne à 45 degrés,
voilà.
En fixant toujours le même point devant soi, on peut avancer ou reculer avec un angle de 45 à gauche ou à droite, un peu comme la dame sur un jeu d'échecs.
Voilà, très bon exemple, c'est tout à fait ça. Donc, ce qui permet de faire ce genre de mouvement-là, ben, c'est le design des roues. C'est la façon dont les roues sont fabriquées. Essentiellement, c'est une série de roues jumelées deux par deux. Puis plutôt que dans le fond, si on remplaçait le pneu d'une voiture par ces roues-là qui font le tour de la circonférence de la roue.
Oui, d'accord.
Des roues également en forme un peu de cône, un peu comme des bouchons de liège.
Ah, d'accord.
C'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu cette forme-là. Mais cette forme-là très particulière des roues permet justement des mouvements de translation, donc des mouvements de glissement sur les côtés en diagonale, par exemple, comme tu l'as bien mentionné. Certains diront, ouais, mais à quoi bon tout ça?
Ben je suis certain que des gens qui ont dépendent de chaises, fauteuils roulants, mécaniques ou manuels, mais enfin, la plupart du temps, ça va être électrique. Pour se déplacer dans la vie puis dans les foules, ainsi de suite, serait heureuse d'avoir ce déplacement supplémentaire là, dans leur panoplie. Oui.
Pensons à des endroits intérieurs qui sont exigus, comme des couloirs très étroits, qui permettent peut-être pas des virages aussi facilement qu'une chaise conventionnelle le fait. Ben, ce genre de projet-là laisse entrevoir une possibilité que les mouvements puissent, qu'il y ait plus de possibilités de mouvement pour les personnes qui circulent dans des endroits un peu plus étroits. Voilà. Fait que c'est un grand point qui est très important de cette proposition-là du jeune homme.
Ben, Ludovic Avenant, ben, bravo. J'espère qu'il va avoir une bonne note à la fin de sa session.
on va l'espérer, mais c'est un projet qu'on va peut-être voir apparaître dans le marché d'ici quelques années.
Tout à fait. On peut penser qu'il y a certainement une application commerciale puis un intérêt de la part des usagers d'avoir un fauteuil qui a des qui je dirais, multivecteur. Hein?
Voilà, exactement, exactement.
Là, je reviens à ce que je disais en entrée de jeu. Là on rentre vraiment en science-fiction. Là.
Oui, tout à fait. Quand j'ai traité cette nouvelle-là, je me suis dit, ah, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser au voyage au centre de la Terre.
Ben, moi, ça me fait penser à un film qui s'appelait Fantastic Voyage. Fantastic Voyage, qui est sorti en 1966 à Hollywood.
Oui, oui, oui.
D'ailleurs, avec Raquel Welch, dans ses débuts cinématographiques, où on injectait un sous-marin microscopique dans le corps d'un scientifique russe qui avait traversé la frontière, qui était atteint d'un caillot au cerveau. Il fallait que le petit sous-marin se promène dans le corps humain puis qu'il se rende jusqu'au cerveau pour débloquer le caillot. OK?
On est pas mal là.
Ben oui, c'est ça qui est fort.
Alors, c'est une technologie qui n'est pas nouveau comme tel, dans le sens où ça existe déjà depuis les années 90, mais évidemment, ça l'a évolué. Puis moi, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est que donc, on est ici dans l'environnement gastro-intestinal. Donc, comment on peut étudier ce long conduit qui est composé de l'œsophage, l'estomac, les intestins et tout? Il existe en ce moment des méthodes, on les connaît, l'endoscopie par la bouche ou par la voie rectale. Mais là, ici, on a donc une petite capsule vidéo sans fil endoscopique. Donc,
c'est beaucoup moins intrusif et désagréable.
Oui, on va le dire. C'est beaucoup plus confortable pour le patient. Donc, c'est une petite capsule avec une caméra, une batterie. On l'ingère. Elle circule dans tout notre système gastro-intestinal. Elle prend des photos qui vont être transmises éventuellement sur ordinateur. Et le médecin peut donc visionner l'ensemble du tube gastro-intestinal du début à la fin. Et ce qui est très novateur, c'est que les nouvelles capsules de nos jours, elles peuvent elles-mêmes éliminer certaines photos qui sont redondantes.
D'accord.
Ou alors identifier les endroits, les zones dans le long conduit où il y a des
problèmes.
Des problèmes, tout à fait, c'est ça. Fait que la caméra aide le professionnel, donc le médecin ici, à identifier les zones problématiques pour poser un diagnostic adéquat sur la pathologie.
Et en même temps, il y a un aspect d'intelligence artificielle parce que la caméra est capable d'identifier ce qui est pertinent ou ce qui ne l'est pas.
Exactement. C'est vraiment là où on est dans des éléments très, très novateurs par rapport à cette technologie-là qui quand même existe depuis au-dessus de 20 ans. Mais là, l'intelligence artificielle, comme tu l'as dit, elle se mêle dans le jeu puis elle propose donc des éléments de plus pour faciliter le travail du médecin à bien identifier les pathologies qui sont en cause là, dans les différentes possibilités de pathologies qu'on peut rencontrer dans le système gastro-intestinal.
Ah bien, et pour tous ceux qui ont déjà subi un examen endoscopique, c'est pas de la tartine. Alors, on peut penser que ça va certainement trouver un usage et se répandre. Alors, en ce moment, ces capsules-là sont... Il n'y a pas encore une application commerciale ou est-ce possible?
C'est disponible. On peut facilement...
On peut le demander.
Ça, c'est peut-être pas si facilement accessible. Par contre, c'est peut-être une question de coût.
Oui, je peux comprendre.
Je ne sais trop, mais tu sais, ça va gagner à être connu puis à être utilisé. Là, pour le patient, c'est un grand gain là, au niveau
exact.
Du confort puis de la non. C'est beaucoup moins invasif comme méthode. Puis voilà, c'est
bravo.
À suivre.
Ben, à suivre. Ben, merci beaucoup encore, Philippe. À chaque chronique, là, on a hâte à l'avenir. On se dit, ah, dans 3, 4, 5 ans, là, si on pourra guérir de maladies cardiaques.
Ouais.
On va avoir des fauteuils pour mobilité tout azimut. Hein,
voilà.
Puis on va peut-être faire un voyage fantastique.
Ouais.
Voyage intérieur. Voilà.
Oui, tout à fait. Ouais, on peut dire ça.
Ben, merci beaucoup. À la prochaine.
Ça fait bien plaisir, François. Bye-bye.